Les milices islamistes du FPI ont jusqu'à présent attaqué toujours des groupes marginaux. Leur cible favorite ces dernières années a été l'Ahmadiyya. Ils ont brûlé des mosquées de l'Ahmadiyya, qui est une secte musulmane qu'ils voudraient voir interdite, que le gouvernement n'a toujours pas interdite. Et justement, le FPI, donc la milice, a été très loin cette fois-ci, bien plus loin qu'elle n'a jamais été, puisque ce sont des intellectuels de l'islam modéré, dit là-bas l'islam libéral, qui ont été blessés, gravement pour certains. Et je crois que le gouvernement n'avait plus d'autre solution que d'intervenir, que d'interpeller le FPI, qui prenait de plus en plus d'espace.
Alors, qui est cette milice? Qui sont les membres du Front des défenseurs de l'islam? Et pourquoi avoir franchi ce pas?
Alors, cette milice, elle est en place depuis la fin de l'ordre nouveau, c'est-à-dire depuis la fin du régime Suharto. Le chef de la milice, Habib Rizik, s'est fait un devoir de militer de manière assez musclée contre les lieux de vice, entre guillemets, c'est-à-dire les casinos, le massage, etc., enfin tous ces endroits qu'il voulait voir fermer. Et en fin de compte, petit à petit, la milice s'est développée pour s'attaquer aussi aux groupes marginaux qui pensaient être de mauvais musulmans, et pour désormais s'attaquer directement aux intellectuels de l'islam libéral.
Comment expliquer cette inaction, cette tolérance du gouvernement indonésien par rapport à cette milice?
Beaucoup d'Indonésiens aujourd'hui pensent que la démocratie doit tout tolérer. C'est toujours un petit peu le souvenir de la censure des années Suharto. Il ne faut pas que nous fassions la même chose. Et la question est très délicate aussi pour le gouvernement, qui subit des pressions très, très variables. On a des pressions aussi de l'islam conservateur qui font que le gouvernement a une marge de manœuvre assez limitée malgré tout.
Est-ce que ce groupe islamique radical bénéficie de soutien extérieur à l'Indonésie?
Ça n'est pas très clair, mais peut-être au niveau idéologique, il y a certainement des influences. Mais enfin, les influences, en tout cas financières, n'ont pas beaucoup d'impact à ce niveau-là. Ce sont vraiment des milices de l'ordre moral qui disent « nous sommes obligés d'agir puisque la police ne remplit pas son rôle ».
Comment le FPI se comporte-t-il avec les communautés minoritaires comme les catholiques, protestants ou même les bouddhistes?
Pour les chrétiens en général, enfin plus pour les protestants mais de plus en plus aussi pour les catholiques, la question la plus épineuse est celle de la construction des églises. Et le FPI a été en effet un des plus actifs à contrer la construction de nouvelles églises ou à contrer l'utilisation des maisons privées comme lieu de prière. Les permis de construction des églises sont très très difficiles à obtenir et donc souvent les prières se font dans les maisons privées. Et c'est là que les milices ont tendance à intervenir parce que les prières collectives ne peuvent pas, selon la loi, avoir lieu dans des maisons privées.
La liberté religieuse est aujourd'hui en danger en Indonésie?
Certainement, pour certains groupes en tout cas. L'Indonésie qui avait cette image de tolérance qui était un petit peu, qui se voulait même un modèle de tolérance religieuse puisque le pays s'est constitué en 1945 véritablement sur un modèle complètement à l'inverse de celui de l'Inde et du Pakistan qui ont fait l'expérience de la scission en 1947. L'Indonésie, ça a été toujours le contraire. On a voulu construire un État pluriconfessionnel et jusqu'à présent en tout cas, ça s'était pas trop mal passé.